catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Bonjour à vous tous, auditeurs, auditrices de Radio Maria. Bienvenue à la catéchèse de ce jour. Bonjour Père Roger.
Et bonjour Maman Régine. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour à Jirès et à Suzy qui sont à la réalisation en ce jour. On va donc prier avant de démarrer l'émission. Merci beaucoup, Jirès. Merci à vous, très chers auditeurs de Radio Maria. C'est la catéchèse interactive. Le Père Roger va nous proposer le résumé des enseignements et on va vous donner la parole tout juste après.
Merci beaucoup, Maman Régine. Merci à vous tous hein, qui êtes en ce moment branchés sur ma fréquence maternelle. La semaine qui est en train de s'achever a été marquée par des catéchèses assez particulières. D'abord, le lundi, c'était une catéchèse rétroactive, comme d'habitude, sur les textes du 14e dimanche du temps ordinaire à Nessé. Isaïe 66, de 10 à 14, Galates 6, de 14 à 18, et puis Luc 10, de 1 à 12, puis de 17 à 20, c'est-à-dire l'envoi de 72 disciples. Le mardi, communiquer, partager avec douceur l'espérance qui est en vous. C'était le thème de la catéchèse de mardi. Le mercredi, la catéchèse était partie des sous-stations. Et puis le jeudi, hier, c'était une catéchèse sur Chiara Corbella-Petrillo, cette jeune femme italienne morte en odeur de sainteté en 2012. Merci.
Merci beaucoup Père Roger. 081 99 66 0 98, vous nous posez vos questions à travers donc ces numéros-là. On va commencer par ces premiers messages. Bonjour Père Roger et toute l'équipe de Radio Maria. Père, quelle est l'importance de la translation? Est-ce qu'on ne pouvait pas garder le corps de Floribert là où il était enterré, ou parce qu'il est devenu bienheureux qu'on doit changer de d'emplacement?
Et merci beaucoup. Bon, d'abord, c'est une question d'accessibilité, une question très pratique. C'est-à-dire, en général, on déplace le corps pour que les gens puissent accéder facilement à ces corps-là. On garde le corps au cimetière. On ne peut pas aller au cimetière à n'importe quel moment. Il y a même des cimetières où on ferme un certain moment et puis ça peut déranger d'autres personnes. La tombe sera très fréquentée ou le tombeau sera très fréquenté et à côté, il y a d'autres tombeaux qui peuvent aussi être d'une façon ou d'une autre affectés par tant de personnes qui iront en pèlerinage. Et donc, on préfère l'église parce que c'est plus accessible. Puis, les cadres permet aussi de prier. Prier au cimetière, oui, c'est possible, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, voilà pourquoi les corps des bienheureux et des saints, surtout lorsque le processus est encore en cours, parce que ce n'est pas fini. Il faut que on puisse les canoniser un jour, et pour qu'il y ait la canonisation, il faut que les corps soient exposés à un endroit qui est accessible, où les gens peuvent aller prier, peuvent aller en pèlerinage, dans l'espérance des grâces qu'ils pourront obtenir à travers par l'intercession du bienheureux.
Delphin Bassanto, depuis l'UPN, de la paroisse Sainte-Marthe. Bonjour Père Roger, quelle est la différence entre un saint et un bienheureux?
Le bienheureux est encore en chemin, parce que la sainteté, le saint, ça c'est vraiment la phase, l'étape terminale. On canonise, ça signifie que bon, le pape, et ça c'est réservé d'ailleurs au pape, le pape proclame que vous êtes saint. La béatification depuis le pape François peut être faite même au niveau des diocèses par l'évêque diocésain. L'année passée, on était au Vira, où le cardinal Fridolin avait béatifié Albert Joubert et ses compagnons. Et même la béatification de Floribert n'a pas été faite par les papes. Ça a été fait par les préfets chargés du dicastère pour la cause des saints. Et c'était d'ailleurs à la basilique Saint-Paul hors les murs. Donc le bienheureux n'a pas encore fini. Hein. Le parcours n'est pas fini. Le chemin n'est pas conclu. Parce qu'il y a une étape supérieure qui vient, l'étape de la canonisation. Voilà, donc le bienheureux, c'est quelqu'un par qui, hein, dont on peut compter sur l'intercession. On peut compter sur son intercession, j'allais dire, mais il n'est pas encore canonisé. Tandis que le saint, c'est celui qui est canonisé. Le bienheureux est plutôt béatifié. Il est en route pour une éventuelle canonisation.
Mon père, est-ce que le purgatoire existe selon la Bible? Parce que j'avais eu un débat avec un ami sur le cas du purgatoire. Je lui ai donné un passage biblique sur 1 Corinthiens pour ceux qui se faisaient baptiser pour le mort, mais il a tout refusé en disant que dès que Saint Paul parle de la mort, ce n'est pas littéralement comme nous le comprenons. Votre explication?
Oui, mais je crois que ça ne devrait même pas être un sujet de préoccupation. Je donne mon point de vue. Comme catholique, prêtre catholique, nous croyons qu'il y a aussi des textes deutérocanoniques de la Bible. Parce que le purgatoire est surtout clair, ça apparaît clairement dans le deuxième livre de Maccabée. C'est là où on parle justement des offrandes envoyées au temple pour offrir des prières en vue de la délivrance des âmes défuntes. Et là, c'est le purgatoire. Donc ça, c'est dans le deuxième livre, livre de Maccabée, 2 Maccabée, 12e chapitre, je crois. Je vous donnerai la référence précise tout à l'heure là. Et donc c'est surtout ce texte-là. Chez Paul, bon, il y en a qui partent aussi de ce texte-là pour justifier le purgatoire, mais bon, quelqu'un peut interpréter ça aussi autrement. Mais le texte le plus clair, c'est 2 Maccabée. Bon, alors comme d'autres églises considèrent que les livres de Maccabée sont plutôt des apocryphes, alors c'est difficile de les convaincre. Mais bon, je crois qu'on n'est pas là pour obliger les gens à croire à ce que nous croyons comme catholiques. Un débat, c'est un échange. S'il est convaincu, tant mieux. S'il n'est pas convaincu, bon, c'est pas pour cela que le monde va s'arrêter. La vie va continuer.
Bonjour Radio Maria, c'est Prémisse Yakala depuis la paroisse Marie-Auxiliatrice. La canonisation et la béatification prennent combien de temps? C'est-à-dire la canonisation combien de temps et la béatification aussi?
Et bon, en général, on attend plus ou moins 5 ans après la mort de quelqu'un pour commencer le processus hein, qui pourrait faire de lui serviteur de Dieu. Bon, parfois, ça commence aussi tout de suite. Il y a des gens qui ont rayonné de sainteté. Des gens, souvent dans la tradition de l'Église, même des gens qui, le jour de leur inhumation, une grande foule commence à crier « saint tout de suite, santo subito ». Alors, on peut toujours commencer immédiatement. Alors, il n'y a pas un timing, hein, parce que ça dépend beaucoup. Ce qui est clair, c'est que quand quelqu'un a versé son sang, je dis pas que ça ira vite, mais souvent, ça peut être un peu plus expéditif. Et parfois, même s'il n'y a pas de miracle, on peut le béatifier parce que les miracles, c'est justement le fait qu'il est mort à cause de sa foi. Dès qu'on est sûr qu'il est vraiment mort à cause de sa foi et puis sa vie était une vie exemplaire, eh bien, même s'il n'y a pas de miracle, on peut toujours le béatifier et puis attendre pour la canonisation. Là, le miracle deviendra obligatoire.
On écoute Papa Hyacinthe Tchogolo.
Bonjour Père, bonjour Maman Régine. Une simple curiosité. Anwarit a été béatifié longtemps avant Père Joubert. Et je constate aussi que Bonachui est béatifié longtemps avant Monseigneur Muziriwa. Y aurait-il une explication sur la vitesse variable dans la béatification?
Merci beaucoup à Papa Hyacinthe hein, du Sacré-Cœur pour la question qui nous a été posée. Bon, d'abord le 2, Muziriwa, Anuarite, Joubert, Floribert sont des martyrs. Ils sont des martyrs rouges, c'est-à-dire ils ont souffert pour le Christ en versant leur sang. Maintenant, il y a aussi des circonstances. Parfois, les circonstances jouent. Et pour Anuarite, il y avait un voyage du pape Jean-Paul II ici en 1985. Et bon, le pape Jean-Paul II a saisi l'occasion pour béatifier Anuarite, qui était décédé une vingtaine d'années auparavant, parce que son martyr, c'est le 1er décembre 1964, et puis en 1985, le 15 août, elle est béatifiée. Ça signifie que c'est plus ou moins 20 ans après sa mort. Donc il y avait certainement aussi, à part son témoignage de foi, à part surtout son carnet de notes spirituelles que Jean-Paul II avait lu, parce qu'elle écrivait en swahili, et puis ça a été traduit, je crois, en français. Et Jean-Paul II a lu ça en français. Et il était vraiment impressionné par la profondeur spirituelle de cette jeune fille, jeune sœur congolaise, qui écrivait à l'époque des choses qui étaient très profondes. Alors c'est ce qui a aussi motivé le pape Jean-Paul II pour qu'elle soit béatifiée lors de son voyage dans notre pays en 1985. Alors après, vous avez les cas de Floribert, plutôt de Albert Joubert, ça a pris assez de temps aussi, parce que justement c'est tout un groupe, hein, c'est des martyrs. Dans le missel, hein, il y a la messe pour un martyr, pour plusieurs martyrs, comme dans la prière des heures aussi. Il y a toujours, on distingue entre un martyr et plusieurs martyrs. Et les cas de Joubert, c'est Albert Joubert et compagnon. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Et donc, ça prend du temps parce qu'il faut analyser cas par cas. Et Floribert, bon, là aussi, je ne dirais pas que c'est allé vite. Mais il y a aussi le contexte qui joue beaucoup. Il est de Goma. C'est plus facile de faire des enquêtes dans une grande ville comme Goma que dans un milieu reculé. Et puis, il y a aussi le contexte de notre pays qui est caractérisé par la corruption. Et donc, un martyr de la corruption, un martyr, quelqu'un qui verse son sang parce qu'il refuse la corruption, en tout cas, il faut le promouvoir. Parce qu'on a besoin des références pareilles pour que la société se transforme. Alors, Monseigneur Muziriwa, nous l'avons dit hier, nous l'avions redit, il faut pas... S'étonner que ça prenne du temps parce que c'est certainement quelqu'un qui avait beaucoup écrit. Et donc, quand on doit béatifier quelqu'un, on doit lire, on doit passer au peigne fin ses écrits. Parce que les écrits témoignent aussi de l'âme, de l'état d'âme de quelqu'un, de ses dispositions intérieures. Et lui, il a été provincial des jésuites, il a écrit. Je me rappelle même, un certain moment, à l'époque, j'étais aussi aspirant des jésuites, un moment, et j'ai même ça, la lettre que lui m'avait écrite comme réponse quand je lui ai demandé les conditions pour entrer chez les jésuites. Il m'avait répondu par écrit. Je garde encore sa lettre. Donc, il a beaucoup écrit, Monseigneur Muziriwa, et comme archevêque de Bukavu, il avait aussi écrit. Et donc, on doit passer au peigne fin ces différents écrits et ne soyez pas étonnés que ça prenne un peu plus de temps.
Kétia, depuis l'archidiocèse de Bukavu, de la paroisse Saint-François-Xavier de Kadutu. J'aimerais savoir pourquoi, dans l'Église, nous n'avons pas l'habitude de donner à nos églises les noms de l'Ancien Testament, comme les protestants le font, à l'exemple de l'église Mont-Bethesda.
Je constate que maintenant, il y a aussi des catholiques qui portent les noms de personnages de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais on encourage plutôt ceux du Nouveau Testament parce qu'ils ont connu le Christ. Ce sont des chrétiens. Donc, ils nous disent comment nous pouvons vivre notre vie dans le Christ. Abraham, c'est un personnage qu'il faut respecter, c'est un patriarche. Isaac, Jacob, et Sarah, Rebecca, Léa, c'est des gens respectables. Mais ils n'ont pas connu le Christ. Et donc, il ne faut pas chercher dans leur vie comment vivre en relation avec le Christ, parce qu'ils sont des personnages de l'Ancien Testament. Or, nous, la centralité de Jésus est très importante. Jésus est le centre de notre vie. Voilà pourquoi les noms que moi je porte, Roger, ça renvoie à un saint, Saint Roger, évêque français du 8e siècle, et parce que ça m'aide à imiter son exemple dans ma relation avec le Christ.
Alors, une précision sur sa question, c'était l'Église catholique ne baptise pas les noms des églises, donc on ne se réfère pas à l'Ancien Testament, pas les noms que nous prenons lors de notre baptême.
Oui, mais j'ai eu l'impression qu'il y a des gens qui ont été baptisés du nom du baptême avec les personnages de l'Ancien Testament. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. À certains, j'ai dit, mais quel est ton nom? Il m'a dit, bon, je m'appelle Léa. J'ai dit, mais de notre baptême. Il dit, non, mais c'est comme cela qu'on m'a fait baptiser. Donc, il faut demander aux spécialistes maison en liturgie, l'abbé Freddy Ngouachi, mais tel que moi je sais, ça devrait être un nom chrétien. Un nom du Nouveau Testament, si ce n'est pas biblique, mais un saint qui a vécu comme modèle dans sa relation avec le Christ, parce qu'en ce moment-là, il peut aussi t'inspirer dans ta relation avec le Christ.
Et parlons de nos églises. Pourquoi on ne peut pas avoir paroisse Saint-Abraham, par exemple? Pourquoi on ne peut pas se référer à l'Ancien Testament concernant les noms des églises?
Effectivement, la limite de tous ces personnages, c'est qu'ils n'ont pas connu le Christ. Et voilà pourquoi le Christ lui-même dit, il le dit dans un évangile, il dit, il y en a qui attendaient voir ce moment. C'est-à-dire l'époque du Nouveau Testament, malheureusement, ils n'ont pas vu ça. Et donc, nos églises sont dédiées à des saints du Nouveau Testament, parce que justement, c'est des modèles pour nous dans notre sequela Christ, c'est-à-dire dans notre vie dans le Christ.
081 99 66 098, vous nous faites parvenir vos questions sur ces numéros-là. Nous étions en train de lire les messages de Kétia depuis l'archidiocèse de Bukavu, paroisse Saint-François-Xavier de Kadutu. Sa deuxième question, j'ai lu le livre de la sœur Marie-Justine d'Itouri de Saint-Joseph. Elle écrit que Saint-Joseph s'est d'abord montré dans l'Ancien Testament comme le gouverneur. Pourquoi cette nuance du Père du Christ avec celui du Fils d'Israël?
Merci beaucoup pour la question qui nous vient de Bukavu. C'est toujours une surprise agréable quand on reçoit des messages de voice qui viennent de Goma, de Bukavu et des territoires sous occupation. D'abord, ils ont le même nom. Je crois que la sœur voulait montrer que il y a parfois des constances qu'on peut relever dans la vie de ces deux Joseph-là. L'un est de l'Ancien Testament et donc il n'a pas connu le Christ, celui qui était gouverneur en Égypte. Et puis l'autre du Nouveau Testament, le père adoptif de Jésus. Mais ils ont en commun le fait que Dieu leur parle à travers des songes. Les deux recevaient des messages de Dieu à travers les songes la nuit. Et donc, ça, c'est intéressant de voir cette ressemblance-là. Et puis, ils sont des témoins de la foi, sauf qu'il y a un qui a connu le Christ, qui était père adoptif de Jésus. L'autre n'a pas connu le Christ.
Salutations fraternelles à vous. Ces jours-ci, nous entendons cette expression « Nzambe lola, nzambe pasola lola, pona kozoa ma pamboli ». Question, est-ce vrai que Dieu habite ou demeure vraisemblablement dans le paradis? Sinon, où demeure-t-il réellement?
C'est-à-dire que les humains que nous sommes, c'est qui? Il n'a pas signé.
C'est Aaron.
Aaron de la paroisse Saint-Luc Banabakintu.
Ok. C'est ce qu'on appelle les anthropomorphismes, c'est-à-dire on veut appliquer à Dieu les caractéristiques humaines. Et on n'a pas de choix. C'est comme cela, nous devons parler de Dieu. Pasola lola. Non, pasola lola. Nzambe tobiso. Je ne sais pas. On veut que le ciel se déchire, que le ciel s'ouvre pour que les grâces tombent du ciel. En fait, c'est le ras-le-bol d'un peuple qui souffre beaucoup. Et malheureusement, ce peuple croit que l'unique salut, c'est la prière. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous célébrons Saint-Benoît, le 11 juillet. Nous célébrons Saint-Benoît et ça fait 4 ans depuis que le cardinal Laurent Monsengo Pasigna nous a quittés. C'est un rappel important. Mais Saint Benoît avait dit « Ora et labora ». Prie et travaille. Mais chez nous, c'est plus la prière. Et c'est ce qui inquiète quand même. C'est ce qui inquiète. Que les gens pensent que on va construire un pays en priant. C'est impossible. On ne construit pas le pays par la prière. Que ça soit clair. On construit le pays en priant, mais aussi en travaillant. Monseigneur Ovesi, évêque de Sakanyakipushi, il y a quelques années, avait publié un livre, plutôt une lettre pastorale, j'allais dire, « Priez peu et travaillez beaucoup ». En fait, c'est ça. Benoît avait dit « On peut prier 8 heures par jour, on travaille aussi 8 heures par jour, et on dort, on se repose 8 heures par jour ». C'est ça ce que disait Benoît, Saint Benoît, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Mais l'évêque de Sakanyakipushi dira, dans le contexte de notre société, il dit « Priez moins et travaillez plus ». Et il a raison. Et il a raison. On a inversé. Hein? On commence à prier beaucoup plus, on ne travaille pas. Ou on travaille très peu. Et on ne peut pas construire les pays par la prière seulement.
081-99-66-098, Joseph Desmarie.
Bonjour, maman Régine. Bonjour, mon père. Et merci beaucoup pour cette... très belle catéchèse. Hein? Parlons-en d'abord sur... parlons la bioéthique. Hein? La bioéthique, parlons-en. Comment alors, mon frère, mon père, concilier le progrès de la science face au respect de l'être humain? Lorsque, par exemple, la science, dans ses progrès, dans ses différents progrès, veut expérimenter, par exemple, ses recherches sur un être humain, comme on le fera avec sur un souris, quelque chose comme ça, ou cobaye. Alors, lorsqu'on découvre, par exemple, dans la bioéthique, un nouveau médicament et qu'on veut expérimenter ça sur un être humain, est-ce qu'on respecte cet être humain-là ou bien on le considère comme un animal sur lequel... on peut expérimenter les différentes découvertes. Et ma deuxième petite question, toujours dans la bioéthique, lorsque par exemple je me réveille un bon matin et que je veux qu'on puisse me changer afin que je puisse devenir une femme, comme on me change le sexe par exemple, excusez-moi pour la pideur, comme ça s'est fait partout en Europe et États-Unis, par-ci, par-là. Sur le plan bioéthique, que dit l'Église? Parce que c'est ça la question du genre. On se réveille un bon matin, on veut changer le sexe, devenir une femme ou devenir un homme. Que dit l'Église là-dessus? Et je me focalise sur Chiara. Est-ce que ce qu'on lui avait dit par le médecin, le médicament qu'on lui avait proposé pour la sauver, est-ce que le médecin lui avait dit qu'elle devrait, elle avait le risque de perdre son bébé dans le ventre, son fœtus? Ou bien est-ce qu'on lui avait dit que, ou soit c'est toi qui meurs, ou c'est le bébé pour qu'elle puisse prendre cette décision-là? Est-ce que, avez-vous fait un peu de petites recherches là-dessus? Merci mon père, moi je m'arrête là.
Merci à Joseph Desmarie.
Merci beaucoup. Hein. Bon. Ce sont des questions, les deux premières questions sont des questions qui touchent à la bioéthique, hein, dont je ne suis pas spécialiste, mais ce sont des questions tout à fait simples. C'est-à-dire que l'Église tient au respect de la vie humaine, et au-delà de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine. Et l'Église interdit tout ce qui est manipulation des ovules. Aux États-Unis, il y a des recherches qui se font et qui risque de compromettre l'avenir de l'humanité. Parce qu'il y a certains scientifiques qui pensent que bientôt, les parents pourront commander les enfants. C'est-à-dire, votre épouse conçoit, l'ovule va dans un laboratoire, et vous commandez l'enfant selon ce que vous voulez. Je veux qu'il soit, par exemple, de telle taille. Je veux qu'il ne soit pas très gros. Donc, vous passez la commande et le spécialiste au laboratoire va manipuler l'ovule en tenant compte de votre commande. Et puis on remet l'ovule dans le corps de votre épouse, et puis l'enfant naîtra, d'après eux, selon les caractéristiques voulues par les parents. C'est extrêmement grave. C'est vraiment grave. Parce que la vie, c'est un don. On reçoit ça de Dieu tel que Dieu veut. Il veut que vous soyez, c'est pas moi, gros ou petit, élancé ou moins élancé, mais c'est un don qu'on reçoit de Dieu. On ne peut pas manipuler. Donc ça, c'est la position de l'Église. On ne peut pas manipuler l'ovule. Il faut respecter la vie humaine, il faut respecter la dignité humaine. La vie vient de Dieu. Nous ne pouvons pas corriger Dieu. Au lieu de corriger Dieu, mais créer un être humain, autre que l'être humain créé par Dieu, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas créer un être humain comme vous et moi. Est-ce que quelqu'un aussi savant fut-il, peut-il créer un être humain qui serait comme l'être humain créé par Dieu, c'est-à-dire vous et moi? Personne ne peut le faire. Mais vous voulez maintenant corriger. Ça ne va pas. Alors l'Église dit non. De même aussi, des histoires de changement de sexe et tout ça, non, ça ne passe pas. Parce que la vie, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. On reçoit ça comme tel. Comme tel. On ne peut pas chercher à manipuler les choses pour corriger Dieu. Non, Dieu est incorrigible. Il sait pourquoi il nous a créés tels que nous sommes. Expérimentation de médicaments, bon, évidemment, il faut mettre les gants. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que ça ne va pas endommager les vies humaines. Voilà pourquoi il y a toujours une première étape, on peut utiliser les animaux, tout ça, comme cobaye, comme on dit. Et puis après, dès qu'on est sûr que bon, c'est un médicament qui est consommable, qui ne va pas porter préjudice à la santé, eh bien, en ce moment-là, on peut appliquer cela aux êtres humains. Il semble que parfois, les scientifiques ne respectent pas ça. Alors, ils vont directement sur des êtres humains avec des conséquences qui peuvent être fatales. Oui, c'est la chimiothérapie. Donc, vous ne pouvez pas. La chimiothérapie a des effets qui sont très, très, très difficiles à supporter. Vous voyez, lorsque quelqu'un a le cancer, après la chimiothérapie, il est très fatigué. Si vous portez un enfant dans votre ventre, l'enfant va subir les conséquences qui sont fatales. C'est-à-dire, l'enfant ne va pas résister. Alors, Chiara n'a pas voulu tout ça pour protéger son enfant qui était dans son ventre.
081-99-66-098, un autre Dieu. Nous prenons d'abord cet appel. Allô?
Bonjour. Je fais cet appel parce que c'est des nettes à chaque fois. Quand je vois mes messages, ce n'est pas lisse, c'est pourquoi je vous ai appelé, mais dans mes appels, j'ai fait toujours des messages. Pour ne pas perdre le temps, je passe à mes questions. Ma première question est la suivante. La fois passée, nous avons tous vu une photo sur la toile qui a fait vraiment beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'engrais et de salive. On a vu les rebelles Naga être bénis par les Monseigneur Utembi, les Monseigneur Lakumbi, les Goma et celles-là de Kamina. Mais pourquoi nos pères de l'Église peuvent bénir un rebelle comme l'homme? Ma deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'une maladie une maladie acquise d'une manière naturelle peut aussi être guérie par la prière? Ma troisième est de savoir, comme je vois les pasteurs organiser des séminaires, ils disent qu'il faut faire des miracles et guérir les gens. Est-ce que Christ, pendant ses règnes, il guérissait aussi les gens chaque jour, il faisait aussi des miracles chaque jour, ou bien d'autres fois, il faisait seulement l'apparition publique, il prêche et puis il rentre. Je veux juste que les pères me précisent parce que les miracles que les pasteurs font, des fois, ça nous dépasse. Comment les pasteurs peuvent guérir, faire des miracles à tout moment? Si je veux aussi savoir si le Christ faisait ça aussi, ainsi. C'est le frère Benjamin, depuis la parole Saint-Barthélemy. Merci.
Merci beaucoup pour vos questions.
Merci beaucoup. La première question, parce que pourquoi Monseigneur Moteba a béni M. Nanga? Ça, c'est. J'ai vu des images. L'abbé Chollet, Monseigneur Chollet, pardon, pourrait répondre avec son expérience, son talent habituel là, quand il aborde ce genre de questions. Moi, je reste dans la Bible, parce que c'est mon domaine. Et qu'est-ce que Jésus ferait? Ça, la question que je pose aux gens, qu'est-ce que Jésus ferait dans ces cas-là? Lorsqu'une personne, évidemment, qui n'est pas appréciée, qui est en disgrâce, un pécheur, s'avance vers lui pour la bénédiction, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il l'aurait chassé? C'est ça la question qu'il faut poser à tous ces gens-là. Mais c'est un évêque. Est-ce qu'un évêque doit maudire? Est-ce qu'un évêque doit refuser de bénir? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il aurait fait la même chose, mais lisez les évangiles. Jésus a choqué beaucoup de gens à son époque, parce que justement, il a dit, il est venu, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Et je crois que s'il y a des gens qui ont besoin vraiment de la bénédiction aujourd'hui, de façon particulière, ce sont justement ces gens-là. Ces gens-là, ils ont besoin de nos prières et de la bénédiction. C'est ça, ils ont besoin de ça. On ne peut pas faire le contraire. Parce que qui sème la bénédiction, récolte la bénédiction. Semer la bénédiction, c'est semer le bien. Et donc, on espère que quelque chose de bien pourra sortir de ces gens-là. C'est pour leur conversion, en fait. Quand on bénit quelqu'un, on espère que la personne va se convertir. Mais si on fait le contraire, c'est-à-dire on le maudit, il devient de plus en plus dangereux. Mais c'est clair. Je ne comprends pas pourquoi les gens... Les gens sont dans des considérations qui sont trop sentimentalistes. Non, c'est pas normal. Parce que vous voulez les maudire, mais si vous les maudissez, il devient un danger pour tout le monde. Vous voulez qu'on les maudisse? Pour qu'ils soient un danger pour tout le monde. Parce qu'une personne maudite, il devient dangereux. Une personne maudite, pardon. Voilà pourquoi il faut bénir. Nous prions pour eux. Ou bien nous sommes des hypocrites. Est-ce que dans d'autres églises, ils ne prient pas pour ces gens-là? On prie pour tout le monde. On prie pour eux, que le Seigneur touche leur cœur. Alors c'est normal que parce qu'on prie pour eux, qu'on puisse les bénir. C'est très clair. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport à ceux qui étaient considérés comme des pécheurs publics à l'époque? Vous avez Zachée, vous avez Matthieu. Mais Jésus est allé chez eux. Il a aussi choqué. Et si Monseigneur Mouteba, par cet acte-là, choque, moi j'ai dit, il est prophète. Parce que le prophète navigue à contre-courant. On voit qu'il est un prophète. Parce qu'à l'époque aussi, quand Jésus est allé chez Zachée, les gens étaient très mécontents. Quand il a appelé Matthieu, ils étaient furieux. Parce que Jésus a appelé Matthieu. Mais Jésus est un prophète. Il ne fait pas comme tout le monde. Il navigue à contre-courant. Il faut bénir. Parce que quand on bénit, on sème le bien et la personne peut aussi se convertir. Mais si vous maudissez, la personne devient de plus en plus dangereuse. Alors, deuxième question sur guérison. Oui, effectivement, hein, dans les évangiles, il y a ces deux aspects-là. Il y a des maladies naturelles guéries par la prière. Jésus et même les apôtres, dans les actes des apôtres, guérissent les gens par la prière, par l'imposition des mains, des maladies naturelles. Et en ce moment-là, il n'y a pas de formule d'exorcisme. Un exemple courant, Marc 1, Jésus va chez Pierre avec ses apôtres. La belle-mère de Pierre est alitée. Elle avait de la fièvre. Jésus la tient par la main et puis elle est guérie. Jésus n'a pas dit « esprit mauvais sort d'elle », non. Parce qu'il n'y a pas d'esprit mauvais en ce moment-là. C'est une maladie naturelle. Jésus tient par la main, ou bien elle impose seulement les mains et la personne est guérie. Quand c'est une maladie spirituelle, c'est alors que Jésus va dire « Esprit mauvais, sort de lui ou sort d'elle ». Là, il va utiliser des formules d'exorcisme parce que c'est une maladie d'origine spirituelle. Alors, la deuxième question, Troisième question. Bon. Moi, je ne vais pas juger, mais je ne vois pas comment on peut prédire les miracles. On ne prédit pas un miracle, jamais. Parce qu'un miracle, ça dépend d'abord de vous-même, des dispositions dans lesquelles vous vous trouvez. Ça dépend de Dieu. Ça dépend aussi de la foi de celui qui peut en être bénéficiaire. Il y a trois facteurs. Comment vous allez prédire des miracles? C'est impossible. Des miracles de guérison. Parce que guérir les gens par la prière, c'est un charisme, c'est pas un don. Et le charisme, comme je vous ai toujours dit, est différent du don parce que le don est permanent. Les dons sont des dispositions permanentes que l'Esprit Saint a déposées en nous. Mais les charismes ne sont pas des dispositions permanentes. Les charismes fonctionnent de temps en temps. Je peux prier aujourd'hui, la personne dit, « Père, depuis que vous m'avez imposé, demain je suis guéri. » Demain, j'impose la main à quelqu'un, il n'est pas guéri. Parce que c'est un charisme qui fonctionne quand l'Esprit Saint veut, mais aussi si je suis dans de bonnes conditions intérieures, si j'ai de bonnes conditions intérieures, plutôt de bonnes dispositions intérieures, j'allais dire. Et puis, ça dépend aussi de la foi de la personne pour laquelle on prie. Et donc, prédire des miracles, bon, je ne vois pas comment ça peut se faire. C'est absurde. Sur le plan théologique, c'est vraiment une absurdité énorme.
Trois questions de Félicien Katumba. La première, apparemment, la grande partie de l'histoire du salut s'est passée en Afrique.
Bon, c'est dans le Moyen-Orient ancien. Et quand on parle du Moyen-Orient ancien, il y a aussi cette partie de l'Afrique qu'on appelait l'Égypte, même la Nubie. Donc, tout ça. Donc, l'Afrique est au grand rendez-vous dans le concert de peuples qui ont tissé l'histoire du salut. En tout cas, l'Afrique est présente à travers notamment l'Égypte. Et puis, il y a aussi l'Asie. Donc, vous avez d'abord la Terre Sainte qui est située pratiquement entre l'Égypte et puis les grandes puissances du Moyen-Orient ancien, comme les Babyloniens, les Hittites, les Assyriens, dans tout ce peuple-là. Les Sumériens, les Hittites, les Assyriens, les Babyloniens, et puis plus tard les Perses et les autres, et puis les Égyptiens. Alors, quand on étudie la Bible, on étudie aussi un peu la culture de tout ce peuple-là qui environnait Israël, sans oublier les Cananéens. On étudie leurs textes parfois parce qu'il y a des textes bibliques, en fait, qui ont été inspirés par des récits égyptiens. Il y a des textes bibliques inspirés par des récits babyloniens, des textes bibliques inspirés par des Cananéens. La lutte entre Jacob se bat avec un être invisible. Bon, aujourd'hui, on dit, mais comment lui... Après, cet être invisible, un ange ou Dieu, on ne sait pas, lui donne le nom d'Israël. Bon, ça paraît un peu insolite pour nous aujourd'hui, mais pour un Babylonien de l'époque, de l'Ancien Testament, ça va de soi. Parce que c'est chez les Babyloniens qu'il y avait les combats des dieux. Les dieux, parfois, se battaient entre eux. Les dieux se battaient entre eux, et parfois... une divinité pouvait se battre avec un être humain, le terrasser parfois. Alors, ce sont ces textes-là qui inspirent les textes de Joseph, qui est en train de lutter contre un être invisible. Et donc, voilà ce que je peux dire. Et heureusement, il n'y a pas que les Babyloniens, il y a aussi des Égyptiens. Il y a des psaumes bibliques où on sent que ça vient de l'Égypte antique.
Que faire avec les gens qui sont atroces à l'évangile du Christ?
Il faut prier pour eux, il ne faut pas se fatiguer, il faut continuer à annoncer la bonne nouvelle. Ils ne viennent pas, il veut dire qu'ils sont réticents peut-être, hein, qu'ils sont hostiles. Bon, parfois ils ne viennent pas à la messe, mais heureusement qu'aujourd'hui avec les médias, on peut surprendre quelqu'un. Quelqu'un peut être surpris, qui n'aime pas le Christ, mais bon, par hasard, il est en train de zapper, puis il tombe sur une radio chrétienne, radio catholique, radio Maria ou autre. Eh bien, il trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, il commence à s'accrocher petit à petit. Il peut aussi se convertir. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Tout ce qu'on publie dans les réseaux sociaux, c'est de bonnes choses. Hein. Il faut être optimiste. C'est vrai que les réseaux sociaux, parfois, véhiculent des antivaleurs. Mais il y a aussi des choses qui sont édifiantes dans les réseaux sociaux. Ça peut aussi surprendre quelqu'un qui, au moment ici, attendait le moins, découvre quelque chose d'intéressant, une prédication d'un prêtre, peut-être même d'un pasteur, et puis ça touche son cœur et il dit, bon, je vais me convertir.
Qu'en est-il des bouddhistes, hindouistes, qui croient à autre chose qu'au créateur du ciel et de la terre? Quelle sera leur finalité?
Et ça, c'est Dieu seul qui sait, évidemment, parce que, bon, ils sont des monothéistes, hein, des bouddhistes surtout, sont des monothéistes. Évidemment, parfois, dans certains monothéismes, Dieu n'est pas nécessairement un être. Un être, comme nous savons qu'il y a Dieu, un seul Dieu et trois personnes divines. Parfois, ils disent, bon, c'est une idée, Dieu c'est une idée, Dieu c'est une lumière. Bon, il y a parfois des conceptions assez particulières, mais ce qui est important, c'est que ce sont des monothéistes. Ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est différent des énothéistes. Les énothéistes croient qu'il y a un Dieu suprême qui est au-dessus de beaucoup d'autres dieux. Mais chez nous, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de Jésus-Christ.
Bonjour ma radio, merci beaucoup pour la catéchèse. Pourquoi on béatifie quelqu'un qu'après sa mort? Justine Lisiger, depuis la paroisse Saint-Félix.
Merci beaucoup à notre sœur depuis Saint-Félix. Parce que l'homme est dynamique, l'homme peut changer. On ne peut pas canoniser une personne de son vivant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Il y en a qui ont bien commencé, qui sont des chrétiens, et puis après, ils finissent mal. Il y a d'autres qui sont peut-être pas des chrétiens convaincus ou convaincants, mais après, ils se convertissent, ils deviennent des références. Donc, l'être humain est dynamique. Donc, c'est mieux attendre après la mort pour porter un jugement quelconque sur sa vie.
Maman Odette Ngoye, depuis la paroisse Bienheureuse à Noirite. Bonjour, Maman Régine Bahia. Bonjour, Père Roger, notre chère radio. Merci pour l'occasion que vous nous accordez de venir auprès de vous avec nos préoccupations. Père, par rapport à la lecture de la Genèse de cette semaine, la bénédiction de Jacob était une bénédiction volée à Isaü. Dieu ne pouvait pas déconsidérer et remettre ces derniers dans ses droits. Et qu'est-il devenu par la suite?
Merci beaucoup. Ésaü, on ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible. Merci à maman, notre maman Odette. Oui. On ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit qu'il avait raté la bénédiction. C'est-à-dire, le texte de la bénédiction d'Ésaü, et qui est c'est un récit éthiologique, donc ce n'est pas historique. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'on ne peut pas copier ça. Ce n'est pas historique, ce n'est pas un récit historique, c'est un récit éthiologique. Un récit éthiologique, c'est quoi? Un récit éthiologique explique le pourquoi d'une chose qui est bizarre, qui est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Il y a deux frères. Ils sont nés du même père et de la même mère. Isaac et Rebecca sont leurs parents. Eux, c'est Ésaü et Jacob. Ésaü est l'aîné, Jacob est le cadet. Ils ont été élevés par le même parent, leurs parents. Ils ont grandi ensemble, ils ont évolué ensemble. À un certain moment, on se rend compte que Jacob est en train d'enregistrer des succès dans sa vie. Il évolue beaucoup mieux que son grand frère. Et les gens se posent des questions, mais comment expliquer ça? Pourquoi lui, il n'évolue pas comme son petit frère? Le petit frère évolue mieux que, il réussit dans sa vie mieux que son grand frère. Comment expliquer ça? La réponse maintenant, qui est une réponse étiologique, c'est-à-dire ce n'est pas une réponse d'une vérité historique, mais d'une vérité sapientielle, c'est que au lieu de bénir Ésaü, on avait béni Jacob par leur père Isaac. Alors pourquoi il n'a pas béni l'aîné? Mais c'est tout simplement parce que la maman avait comploté pour que la bénédiction aille chez l'aîné. Ce n'est pas historique, j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui se basent sur ce texte pour tricher dans la vie, bien pour justifier des choses qu'on ne peut pas justifier. Donc c'est un récit éthiologique qu'il faut situer dans son contexte, parce qu'à l'époque, évidemment, l'aîné était favorisé. Et on dit même que bon, l'aîné était béni. Bon, il n'était pas béni, il était simplement héritier. Il était héritier de biens de ses parents, de la fortune des parents. Il pouvait partager avec les cadets, mais pas nécessairement. C'est-à-dire, il était privilégié dans la gestion de l'héritage des parents. C'est ça l'avantage que l'aîné avait. Mais ce qui est important, Et j'ai beaucoup insisté là-dessus quand j'expliquais ce texte dans l'émission de 5 heures, je crois, la semaine passée ou l'autre semaine là, que Jacob bénira tous ses enfants. Parce qu'on a l'impression que dans les livres de la Genèse, il n'y a que soit c'est l'aîné qui est béni ou bien c'est les cadets. Si vous avez deux enfants, il y a un qui va réussir et l'autre ne réussira pas. Caïn et Abel, Caïn n'a pas été, son offrande n'a pas été acceptée. Et puis il va passer sa vie comme un vagabond. Abel a réussi, mais n'a pas vécu pendant longtemps. Après, vous avez deux autres enfants, c'est Ismaël et Isaac. Ismaël est chassé et est allé au désert, c'est Isaac qui est béni. Et Isaac, à son tour, d'après le texte, on voit que c'est Jacob qui est béni, Ésaü n'est pas béni. Alors Jacob va révolutionner le sens de la bénédiction, parce qu'avant sa mort, il est descendu en Égypte, et puis il va mourir en quittant l'Égypte. Il va bénir tous ses enfants. Parce que la bénédiction qui était sélective, qui était réservée à l'aîné, et parfois détournée par les cadets, le cas de Jacob et Ésaü, n'est pas exclusive, ça doit être inclusif. La bénédiction est inclusive. Voilà, Jacob bénit tous ses enfants avant de mourir, et ses enfants seront à l'origine du peuple d'Israël. Les 12 tribus d'Israël sont des tribus qui ont fondé par pratiquement ces grands peuples, parce qu'ils ont tous été bénis. Donc, il y a lieu de bénir tout le monde, au lieu de bénir seulement certaines personnes. Il faut bénir tout le monde. D'autant qu'on est catholique, donc tout le monde a besoin de la bénédiction. Donc la question de tout à l'heure, pourquoi mon Seigneur Moteba bénit telle personne? Mais il doit bénir, il ne peut pas faire le contraire. Et c'est biblique, parce que Jésus aussi a béni les pécheurs. Il a été chez Matthieu, chez Zachée. Les gens étaient choqués, parce que hier comme aujourd'hui, les gens sont comme des pharisiens, des hypocrites. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs, les autres ne sont pas meilleurs. Et donc, ils ne méritent pas la bénédiction, ils ne méritent pas ceci. C'est des juifs de l'époque, n'est-ce pas? Qui pensaient que Matthieu ne peut pas être devenir apôtre, et qui encore? C'est Zachée. Alors, quand Jésus va chez Zachée, chez Matthieu, mais pourquoi il a fait ça? C'est l'hypocrisie des pharisiens, malheureusement, qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Teddy, depuis Brazzaville, juste vous dire que je... Excusez-moi. Que je suis un fidèle auditeur de Radio Maria. Je vous écris depuis Brazzaville. Je suis chrétien de la paroisse Ndona Marie. Merci pour cette bonne catéchèse. Que Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, vous bénisse.
Merci. Soyez bénis vous aussi. Bientôt, on va inaugurer officiellement Radio Maria Brazzaville, qui fonctionne déjà avec l'abbé Stanislas, directeur de Radio Maria Brazzaville, que je salue. Voilà, Brazzaville sera la capitale de la famille mondiale des Radio Maria le 2 août, parce qu'il y aura l'inauguration des Radio Maria Brazzaville. En pareilles circonstances, la messe est transmise dans beaucoup de pays, notamment en Afrique et même en Europe, pourquoi pas en Asie, en Amérique, dans beaucoup de pays. On suivra cette messe à partir de Brazzaville, messe d'inauguration des Radio Maria Brazzaville le 2 août, donc d'ici quelques semaines.
Nous terminons par ces messages. Bonjour ma radio, Jésus envoie les disciples en mission et leur dit « N'aie rien à porter car ils seront pris en charge là où ils seront accueillis. » Mais Saint Paul lui préfère travailler pour ne pas changer les gens qui l'écoutaient. Un mot de votre part.
Si vous pouvez répondre à la question, je peux bien compris.
Il dit ceci, Jésus envoie les disciples en mission et leur dit de ne rien à porter car ils seront pris en charge là où ils seront accueillis. Par contre, Saint Paul lui préfère travailler pour ne pas changer les gens qui l'écoutent.
Ah oui, c'est ça, c'est très bien, c'est une très bonne question. En fait, dans les écoles rabbiniques à l'époque, on apprenait des métiers. C'était vraiment obligatoire qu'on apprend la théologie, l'exégèse. Bon, chez eux, ils apprenaient comment faire des midrash, comment interpréter les textes par des méthodes qu'ils appelaient des midrash, Alaka, Agada, ainsi de suite. Ce sont de l'exégèse rabbinique, en fait. C'est ça ce qu'ils apprenaient. Paul avait appris tout ça. Mais ils apprenaient aussi, chacun apprenait un métier. Et Jésus avait appris le métier de charpentier, parce que les enfants de Juifs apprenaient aussi des métiers. Paul avait appris le métier de fabricant de tentes. Quand Jésus envoie ses disciples, il met l'accent sur le fait qu'ils doivent être pris en charge par ceux qui vont écouter la parole de Dieu, parce que même s'ils connaissent des métiers, parmi eux, il y a des pêcheurs, par exemple, qui pratiquaient la pêche, mais ils n'ont plus le temps de le faire. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Voilà pourquoi il insiste sur le fait que celui qui annonce la parole de Dieu, puisqu'il n'a pas le temps de faire autre chose, il n'a que ça comme ministère, comme travail, appelez ça métier comme vous voulez, eh bien, vous devez le prendre en charge. Il insiste là-dessus. En fait, c'est une insistance pour sensibiliser les gens, mais eux-mêmes aussi, par moment, avaient un métier. Et un certain moment, pour payer l'impôt, on ne prend pas dans la bourse de commune. Jésus dit à Pierre, va faire la pêche. Jette l'hameçon, et puis tu vas capturer un poisson. Là-dedans, il y a assez d'argent pour payer l'impôt, vous et moi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait pas totalement renoncé au métier hein, qu'ils avaient appris, qui pouvait leur apporter aussi un peu d'argent. Même si c'était à donner totalement à l'évangélisation, mais par moment, ils pratiquaient la pêche. On le voit, même après la mort de Jésus, Jésus leur apparaît au bord du lac de Génézareth, je crois. Donc, quel lac là ? De Tibériade, hein, on appelle ça Tibériade, parce que c'est aux environs de la ville de Tibériade, hein, ville dédiée à l'empereur Tibère. Alors, il leur apparaît là en Jean 21, ils étaient en train de faire la pêche. Alors, c'est normal que Paul aussi, qui était à temps plein, au service de l'Évangile, il annonçait la parole de Dieu, par moment, avait aussi ce temps-là pour fabriquer ses tentes, ce qui lui rapportait un peu d'argent.
Dernière question, le mari de Chiara est-il encore vivant? Si oui, est-ce qu'il habite dans la même maison? Est-ce qu'il s'est remarié?
Ah, ok. Enrico Petrillo est là. Il est là. Il donne beaucoup de conférences sur sa femme, des témoignages sur sa femme, et avec leur enfant, avec Francesco, que Chiara appelait Francis. Dans le nom de baptême, c'est Francesco, c'est-à-dire François. Mais dans la lettre que Chiara avait laissée à cet enfant, dont la maman est décédée quand il n'avait qu'une année. Car avant de mourir, avait écrit la lettre qui est restée comme un testament. Et l'enfant, en grandissant, quand il a atteint l'âge où il pouvait lire, eh bien, il a lu la lettre que sa maman lui avait laissée avant de mourir, parce que sa maman est morte quand Francesco n'avait qu'un an. Et donc, Francesco est resté avec Enrico, qui ne s'est pas remarié. Est-ce qu'il va se remarier? Je ne sais pas, mais il ne s'est pas remarié. Et il vit avec cet enfant-là. Ils ne vivent pas dans cette maison-là, mais par moment, il va là-bas. Il y a même des vidéos qui montrent qu'il y a des témoignages hein, sur sa femme qu'il a enregistrés dans leur maison où il habite avec sa femme. Parce que comme je vous ai dit hier, il y a beaucoup de gens qui vont dans cette maison-là en pèlerinage.
Merci Père, on s'arrête ici pour la première partie, un dernier mot.
La joie de vous servir devant ces micros et merci.
Merci beaucoup Père Roger, merci à vous, très chers auditeurs de Radio Maria, d'avoir participé à cette catéchèse interactive. Merci aux techniciens Jérès Vango et Suzy et Kikila Mwamba. Voilà Père Roger, on va terminer cette première partie par un mot de prière.
Volontiers, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Seigneur Dieu, merci pour cette semaine qui s'achève, pour les grâces reçues, et pour tant de merveilles reçues de ta part. Nous voulons te dire merci, tout en te présentant ces week-ends qui pointent à l'horizon. Nous te présentons spécialement tout ce que nous comptons faire tout au long de ces week-ends. Qu'il soit pour nous un temps de grâce, un temps de prière, un temps pour te louer, pour contempler tes merveilles. Nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs qui souffrent, les victimes de la guerre dans l'est de notre pays, les victimes de l'insécurité, les malades, les prisonniers, toutes les personnes qui traversent des moments extrêmement difficiles. Nous te prions, Seigneur, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de répandre sur eux d'abondantes grâces. Accueille ton serviteur, le cardinal Laurent Monsengo Pastignat, qui nous a quittés il y a de cela 4 ans. Donne-lui le repos éternel, fais briller sur lui la lumière sans fin, qu'il repose en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.